Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je suis sur le Salon du Livre pour La Fabrique et on rencontre Pierre Pével, un grand écrivain français de fantasy. Alors chers auditeurs, si vous n'aimez pas la littérature mal traduite, Pierre Pével sait exactement ce qu'il vous faut. Et si vous n'aimez pas lire, c'est pas grave, Pierre Pével signe aussi des jeux de rôle. Si on faisait une uchronie biblique de votre vie, on pourrait dire qu'au commencement était le jeu.
Oui, j'ai commencé comme ça. Je savais que j'aimerais vivre de ma plume et de mon imagination. Et le jeu de rôle a été la première opportunité qui s'est posée à moi, historiquement.
Ensuite est venue l'écriture et votre dada, c'est l'uchronie, donc la réécriture de l'histoire avec certains événements qui ne se sont pas passés comme ça s'est réellement passé. Est-ce que ça a une saveur particulière de réécrire l'histoire ?
Bah oui, parce qu'en général, je m'inspire de périodes historiques que j'aime beaucoup et dans lesquelles j'ai plaisir à mettre en scène des aventures et des personnages imaginaires. Et puis y ajouter le petit élément, enfin parfois le gros, parce que l'élément en question, ça peut être des dragons, mais y ajouter l'élément qui décale la période et qui lui rend une originalité particulière est toujours très très agréable. L'idée étant de trouver les éléments nouveaux, imaginaires, mais qui mettent en relief la période que l'on détourne. C'est comme le grain de sel qu'on rajoute dans la recette.
Et si vous deviez revivre une période en particulier, ce serait quoi ? Plutôt Belle Époque ? Plutôt Révolution française ?
Alors, j'ai une réponse un peu romanesque, romantique qu'on peut faire. Évidemment, l'époque des mousquetaires me fait rêver, ou alors le début du XXe siècle, la Belle Époque aussi. Mais je suis quand même très attaché à des valeurs telles que les antibiotiques, une dentisterie efficace. Donc je suis assez content de mon époque.
Et pourquoi les dragons plus qu'un autre personnage fantastique ?
Parce que c'est cool, les dragons. Ce sont des créatures extraordinaires. Elles sont polymorphes, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un peu comme le mythe du vampire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dragons, on peut les imaginer comme des créatures violentes, sans intelligence, juste brutales, des forces de la nature qu'on ne contrôle pas. Elles peuvent aussi être, on peut les imaginer comme une race intelligente, avec des gens bons, des gens mauvais, une culture, de la philosophie. Ils peuvent être de purs adversaires aussi, selon les contextes. J'ai mis des dragons dans pratiquement tous mes bouquins, mais ce ne sont jamais les mêmes. Et je compte bien continuer.
Au gré des opportunités, retour au jeu, notamment en 2014, où vous éditez Les Lames du Cardinal aux éditions Sans Détour. Est-ce que c'était une envie de retourner aux premières amours ou le jeu est une plus-value à votre écriture ?
Très, très franchement, le jeu de rôle Les Lames du Cardinal, c'est d'abord une idée de Sans Détour et de son directeur artistique, Christian Grussy, qui est venu me voir et me proposer le projet. J'avais déjà été approché souvent par des auteurs de jeux de rôle ou des petites maisons d'édition, plus ou moins confidentielles, plus ou moins établies, pour adapter tel ou tel de mes univers. Et jusqu'à présent, j'avais toujours refusé pour deux raisons. D'une part, pour moi, le jeu de rôle était vraiment une page tournée, c'est-à-dire que je ne renie pas du tout cette période, mais maintenant, je me consacre pleinement à l'écriture et le jeu de rôle est une étape de ma vie, mais que j'ai dépassée. L'autre raison était que si un jeu de rôle devait être fait à partir d'un de mes bouquins, j'avais envie qu'il soit bien fait. Donc il fallait que j'y consacre du temps et que je surveille ce qui se ferait. Ça, si je le confiais à des gens que je ne connaissais pas. Mais quand Christian Grussy, que je connais depuis près de 20 ans maintenant, est venu me voir avec ce projet, pour moi c'était idéal parce que je savais que je n'aurais qu'à avoir quelques conversations avec lui et qu'ensuite il confierait ça à des gens de talent et que, en gros, le jeu de rôle serait bon sans que j'aie à m'en occuper. J'ai eu bien raison d'accepter le projet de Sans Détour puisque après quelques conversations avec Christian sur les concepts de jeu, l'ambiance que je voulais retranscrire, eh bien il a confié ça à une équipe de création talentueuse dirigée par Philippe Auribeau. Et le résultat est allé au-delà de mes espérances, dans le fond comme dans la forme. Je trouve le jeu très beau, les illustrations de Loïc sont splendides. Vraiment, je suis ravi par ce jeu de rôle.
Et donc, vous y avez joué, en fait, pour l'expérimenter ?
Ah non, je n'y ai pas joué encore. Très rapidement, avec Christian, imaginer le concept de jeu de cartes, du jeu de tarot qui servira à différentes choses dans le jeu, c'est-à-dire aussi bien pour régler les combats, les scènes d'action, que pour créer les personnages, que pour placer l'ambiance, etc. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue très tôt. Mais moi, je n'ai pas encore joué au L'Âme du Cardinal, le jeu de rôle. J'ai un peu cessé d'être un joueur, de toute façon, ça fait depuis que j'ai arrêté de travailler dans le jeu de rôle, j'ai également arrêté d'y jouer. Mais le système, je le connais, je l'ai vu pratiquer, j'ai vu des parties se faire, et puis j'ai eu des retours, des gens qui m'en ont parlé, et tout le monde est ravi. Et ce qu'on m'en dit, c'est exactement ce que je voulais qui soit possible avec le jeu, quoi. Pour ce qui est de l'ambiance, et les parties sont animées, pleines de panaches, de retournements, les gens sont contents d'y jouer, les cartes volent, c'est exactement ce qu'on voulait.
Vous disiez que vous avez arrêté de jouer. Est-ce que vous avez arrêté de jouer parce que finalement, maintenant que vous écrivez, le jeu se passe plus dans votre tête ?
En fait, j'ai arrêté de jouer même à l'époque où je travaillais encore dans le jeu de rôle. J'ai d'abord été joueur, puis ensuite je suis devenu scénariste, auteur de jeux de rôle. Et là, petit à petit, j'avais deux campagnes que je continuais à faire jouer. Enfin, une surtout dans l'univers de Pendragon. J'ai vite arrêté de jouer parce que je travaillais, j'écrivais des scénarios et des extensions toute la journée. Et si je jouais le soir, j'avais l'impression de ramener du boulot à la maison, en fait. Et du coup, petit à petit, je me suis un peu éloigné de la pratique du jeu de rôle.
Les Lames du Cardinal en jeu, c'était en 2014. Là, vous êtes sur le Salon du Livre pour signer au Royaume. Donc le premier tome est en poche et le deuxième tome est en grand format. J'ai lu souvent que l'écriture de ce Haut Royaume était par moments difficile pour vous. Est-ce que c'était le fait de sortir de vos sentiers battus qui a posé problème ?
Peut-être. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai eu un premier bouquin qui a été important dans ma carrière parce que j'ai senti qu'en tant qu'auteur, je passais un cap, il y avait quelque chose qui changeait. C'est Les Ombres de Willstatt, le premier tome de la trilogie de Willstatt. Et ceci, je l'ai ressenti avec le premier tome de Haut Royaume 10 ou 15 ans après. C'est le bouquin est différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai un investissement personnel qui est également différent. Pour un aspect purement pratique, ce qui compte aussi, c'est que c'est un gros livre. C'est le plus gros livre que j'avais jamais écrit jusqu'à présent. Il représente le double du volume d'à peu près de mes romans habituels. Donc c'était également deux fois plus de travail. Bref, l'accouchement a été parfois difficile, mais je suis assez reconnaissant à mon éditeur de m'avoir, un, forcé à le faire, et deux, aidé à le faire, parce que je suis assez satisfait du résultat.
Et quelques mots sur la trame de ce Haut Royaume ?
Le royaume se passe dans un univers de fantasy imaginaire qui est plutôt sombre, qui sort d'une très longue guerre où les humains ont affronté des forces maléfiques. Dans cet univers-là, un chevalier qui avait tout pour plaire, tout pour réussir, qui était loyal, courageux, compétent, efficace, mais vraiment promis à un avenir extrêmement brillant, et du jour au lendemain accusé de trahison et jeté en prison. Il y passe 3 ans dans une prison horrible où il est soumis à l'influence d'une énergie, d'une puissance négative. Et on l'en sort un beau jour parce qu'en vertu d'une prophétie sacrée, on se rend compte que c'est peut-être lui qui est censé sauver le monde d'un danger à venir. Et donc on lui dit, on est désolé. Deux, on voudrait que vous sauviez le monde. Dans ces circonstances-là, en général, un héros de fantasy, il est d'accord. Et le mien, il dit oui, mais il est bien décidé à utiliser les moyens qu'on va mettre à sa disposition, moins pour sauver le monde que pour se venger et trouver ceux qui l'ont emmené en prison. Ce n'est que le point de départ.
Vous avez une autre actualité en ce moment. Il y aura la réédition de la saga d'Ambremer chez Bragelonne qui s'appellera Le Paris des Merveilles. Et pour cette réédition, vous écrivez même un troisième tome. Vous aviez envie de retrouver cet univers particulier, plus féerique, ou c'était juste une commande ?
Ah non, c'est pas du tout une commande, c'est une envie lointaine. J'étais très frustré de ne pas avoir pu mener le projet Paris des Merveilles à terme à l'époque. Il manquait ce fameux troisième tome que je n'avais pas pu écrire, et même le deuxième tome que j'avais écrit et qui avait paru à l'époque avait été très mal diffusé et était pratiquement introuvable. Donc dès que j'ai pu, suite à un peu de cuisine éditoriale interne, récupérer mes droits sur le premier et le deuxième tome, Je me suis dépêché d'aller proposer la chose à Stéphane Marsan en lui disant « Est-ce que tu veux les reprendre ?» Et secondo, si Brajeune les reprend, la bonne idée serait que j'écrive enfin ce troisième tome que j'ai envie de faire. Et du coup, le 20 mai le prochain, c'est non seulement le premier tome qui sort, mais les trois sortent en même temps dans une nouvelle édition qui, de mon point de vue et de l'avis général, est juste magnifique. Les bouquins sont splendides. On a la couverture du premier tome ici en poster sur le stand ça part comme des petits pains. C'est vraiment très très beau, les livres vont être beaux, j'espère que ça va plaire et je suis très 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 satisfait que enfin ce projet aboutisse avec une trilogie qui, je l'espère, plaira. D'une part, c'est des bouquins qui sont assez personnels. Je les ai situés dans une période que j'aime bien, qui est le début du XXe siècle, la Belle Époque. On est à Paris, donc c'est le Paris haussmannien, le Paris de la Belle Époque, celui des messieurs en chapeau melon et moustache en guidon de vélo, des bottines à boutons, etc. Et dans ce Paris très folklorique, j'ai imaginé que vivent des fées, faunes, dragons, enfin des créatures merveilleuses, ce qui contribue à faire un univers qui est très lumineux, très féerique. Les livres, j'ai envie de les comparer à des bonbons acidulés. C'est vraiment quelque chose que j'espère léger, frais, agréable à lire. L'intrigue fonctionne à la péripétie, il se passe quelque chose dans chaque chapitre, tout va vite. Les personnages ont beaucoup d'esprit, donc il y a d'assez bonnes répliques entre les deux héros qui sont un magicien et une enchanteresse qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'est pas du genre à se laisser faire. Donc c'est des romans gais, lumineux, avec un très fort potentiel de dépaysement.
Vos œuvres, certaines, ont été traduites en anglais. Est-ce que vous avez vécu ça un peu comme une consécration ?
J'étais très 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 content lorsque les Lames du Cardinal, d'abord, enfin, donc la trilogie a été traduite en anglais. Le premier tome de Au Royaume aussi, Le Chevalier, est traduit en anglais. C'est très agréable à différents points de vue. Le premier étant que moi j'écris pour être lu, donc plus j'ai de lecteurs, plus je suis content. Là, au mieux, j'avais les lecteurs francophones. Maintenant, j'ai des lecteurs hispanisants, allemands. Je suis traduit dans les pays du Nord, de l'Europe, de quelques pays des Balkans. Enfin bon, c'est vraiment en Russie. C'est vraiment très, très agréable de savoir que je vais être lu par tant de gens différents. C'est aussi la satisfaction de voir qu'une certaine nouvelle école de fantasy française est reconnue à l'étranger. Ça aussi, ça fait plaisir, puisque j'ai des petits camarades qui, je crois, sont également traduits. C'est agréable.
Est-ce que vous avez des retours de vos lecteurs, quel que soit leur lieu d'habitation ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent sur l'ensemble de votre œuvre ? Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous fassiez ?
Alors, des retours de lecteurs, oui, j'en ai beaucoup, essentiellement des lecteurs francophones, pas seulement français, mais suisse-belge. J'ai également des retours de lecteurs anglais, parce que c'est la seule langue étrangère que je peux lire. C'est très divers. Il y en a certains qui écrivent pour me remercier, pour me dire le goût qu'ils ont pris, le plaisir qu'ils ont pris à lire les bouquins, bref, pour me faire des compliments, et ça, c'est toujours très très agréable à lire. Certains font parfois des reproches, ou alors émettent des réserves, des critiques, me disent avoir préféré telle série à telle autre, ce qui est totalement légitime, vu que j'essaye de faire des séries assez différentes, c'est normal qu'on ait ses préférés. Pendant longtemps, on m'écrivait quand même beaucoup pour me demander quand est-ce qu'on pourra avoir une parution des Enchantements d'Ambremer et du deuxième tome, est-ce que vous ferez un troisième tome, etc. Donc ça, je l'ai eu pendant vraiment longtemps, donc je suis très satisfait de donner satisfaction au lecteur à ce niveau-là. On me parle aussi, c'est parfois des conversations qui sont plus informelles, parce que je suis assez présent sur Facebook. J'accepte les demandes d'amitié d'à peu près tout le monde, partant du principe que ce sont des lecteurs, et j'ai souvent comme ça sur Messenger, en chat en direct, des conversations avec eux qui sont, alors là pour le coup, qui au début commencent de manière assez formelle, où on appelle Monsieur Pevel, et puis parfois avec certains on devient, l'amitié se crée, il se crée une certaine complicité, proximité, et là du coup on finit par parler de tout à fait autre chose parfois que de bouquins, de cinéma, de qu'est-ce qu'on est allé voir, est-ce qu'on pense que le dernier Assassin's Creed est meilleur que le précédent, ce genre de choses quoi.
Donc finalement vous restez quand même joueur, mais plus forcément jeu de rôle.
Je suis un joueur console, ça je l'ai toujours été. Depuis, j'ai un grand âge, ce qui fait que ma première console était une Atari 1000. Et j'ai jamais arrêté de jouer sur console. Et j'ai fait l'acquisition récente d'une PS4 et je m'amuse bien.
Si vous deviez vous improviser chevalier de la fantasy, une littérature qui est souvent décriée et considérée comme n'étant pas de la grande littérature, qu'est-ce que vous diriez ?
Lisez-en. C'est que la plupart des gens qui ont qui critiquent la fantasy à ce niveau-là n'ont en fait que des a priori, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'il fallait qu'ils lisent quand ils étaient adolescents ou après. Mais lisez-en, vous verrez que la fantasy... française en particulier, mais également étrangère, est très 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 diverse. Il y a tout. Il y a une fantasy qui est très stéréotypée, avec à peu près souvent un peu la même histoire d'épées magiques, de dragons à tuer, de princesses à sauver. Honnêtement, c'est quand même de moins en moins vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier que la fantasy est un genre, donc elle a ses codes qui peuvent devenir des clichés, mais c'est vrai de tous les genres. Après tout, personne ne se plaint que 90% des polars commencent par la découverte d'un cadavre et il faut savoir qui a tué la personne. Si on réduit les polars à ça, tous les polars sont de la caricature et qu'il n'y a aucun intérêt et tous les polars se ressemblent. On se rend bien compte à quel point c'est idiot. Donc même si la fantasy ne racontait que des histoires d'épées magiques et de princesses à libérer, ce qui n'est pas le cas, mais même si c'était le cas, il y aurait autant de variétés possibles qu'il y a d'auteurs. Et il y a une fantasy qui est très adulte, une fantasy qui est destinée aux enfants, une autre qui est destinée aux adolescents. Il y a une fantasy, là ça me dépasse un peu comme concept, et qui est plus ou moins destinée soit aux femmes, soit aux garçons. Ça me paraît un peu idiot, mais bon, c'est comme ça. Donc il y a vraiment toutes les fantaisies possibles. Essayez, allez dans les librairies spécialisées, vous tomberez sur des gens qui pourront vous renseigner, et vous serez peut-être surpris.
Retrouvez toutes les émissions en podcast sur www.lafabrique.ch.